Alors voilà, bonjour à chacun et à chacune. Pour ce matin, j'ai eu un thème qui est venu sur mon cœur suite à ce qui nous a été partagé ces derniers temps. La première fois, c'était avec le frère Georges Calam, mercredi il y a 2 semaines en arrière, qui nous a partagé sur le sujet d'un roi qui s'appelait Belshazzar et qui avait été pesé dans la balance du Seigneur et avait été trouvé léger. Il avait fait le lien aussi avec l'Église, hein, l'Église de manière générale, qui aujourd'hui parfois se trouve vraiment loin du degré d'engagement et de sanctification demandé par le Seigneur pour son peuple, et que parfois l'Église fonctionne un peu comme le monde. Hein. Je fais un résumé, je ne dis pas forcément exactement les propos qui ont été dits. Et puis cette pensée a été reprise, sauf erreur, par notre frère Pierre Eberly, hein, le mercredi soir suivant, quoi, de la semaine suivante. Qui nous a parlé de Lot et en lien avec l'Église qui vit aussi dans le compromis avec le monde. Et quand Pierre a commencé son partage, ben, j'ai tout de suite eu la pensée de ceci: c'est quoi un chrétien tiède? Et je me suis dit, ben voilà, ça ferait un thème pour ce dimanche. Ensuite de ce qui nous a été, à la suite, hein, de ce qui nous a été partagé, c'est quoi un chrétien tiède? Et lorsqu'on parle d'un chrétien tiède, je pense qu'il y a tout de suite un texte qui nous vient à l'esprit, celui de l'église de Laodicée, en Apocalypse 3, verset 14. Et c'est ce que nous allons donc lire, Apocalypse 3, verset 14, jusqu'au verset 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Église au pluriel, hein? Ça sous-entend que ce matin, ce n'est pas un message seulement pour notre Église, mais c'est un message de manière générale pour l'Église. Et bien sûr que moi, je vise personne dans ce qui va être partagé dans la suite. Mais c'est simplement la parole du Seigneur. Et Dieu nous avertit que, oui, une église, un individu, mais des fois une église entière aussi, peut tomber dans la tiédeur. Alors, je ne suis pas en train de dire que notre église est dans la tiédeur, hein, ce n'est pas ça. Mais simplement, en voyant un peu ce que c'est qu'une église tiède, ben, peut-être tout d'un coup, ça va nous titiller sur quelque chose. Ou bien peut-être ça va nous titiller par rapport à un frère ou une sœur qui n'est pas du tout dans cette église, mais qui est dans une situation de tiédeur. Et puis peut-être qu'on aura envie de lui partager quelque chose sur ce thème. Donc, vous m'avez compris, je ne suis pas en train de dire que l'église de la chapelle de l'espoir est tiède, réveillez-vous. Non, ce n'est pas ça. Hein? Mais simplement de se rappeler les critères de Dieu par rapport à la tiédeur, parce que la tiédeur n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Hein? Ce n'est pas tout d'un coup, j'étais chaud bouillant et le lendemain, je suis complètement tiède. C'est comme l'eau. Pour que l'eau devienne tiède, ben, il faut du temps. Hein, il faut du temps, il faut que d'abord elle va bouillir comme ça, à plein feu, Puis après, vous la retirez de la plaque et puis l'eau, gentiment, les bulles vont se diminuer jusqu'à ne plus paraître. Il y aura de la vapeur un moment, la vapeur va s'en aller et au bout d'un moment, tu sais que l'eau va devenir tiède. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. C'est un processus lent et peut-être des fois de manière inconsciente, tout à coup, on devient tiède. Et on était bouillant et avec le temps, on peut devenir tiède. Voici donc les paroles du véritable, du témoin fidèle, dès le commencement de la création de Dieu. Et il faut bien ce témoin-là pour mettre à la lumière que les œuvres de cette église de Laodicée ne sont pas à la gloire du Seigneur. Parce que d'apparence, tout fonctionne bien. Il est dit que cette église est riche et n'a besoin de rien. Elle semble bénie. Tout semble bien fonctionner. Une église qui a besoin de rien. Alors, en tout cas, ce n'est pas notre église. Nous, dans les requêtes qu'on fait par notre communauté, on voit qu'on a des besoins. On a besoin de gens qui s'impliquent dans tel domaine, dans tel autre, etc., etc. On a des besoins. On ne peut pas dire qu'on est riche et qu'on a besoin de rien. Merci Seigneur, tu nous as tellement bénis. Alors, on est reconnaissant pour tout ce que Dieu nous donne, mais nous avons des besoins aujourd'hui encore. Et ce n'est pas forcément un mauvais signe. Aujourd'hui, on a encore des besoins. Ça veut dire qu'on est dépendant du Seigneur. On ne peut pas fonctionner avec nos propres forces, mais on crie à l'Éternel, sachant que notre Dieu va répondre à nos prières. Et en bénissant son nom pour tout ce que nous pouvons vivre déjà aujourd'hui dans sa grâce. Amen. Alors, on peut s'imaginer un peu ce que pourrait être cette église de Laodicée pour nos temps actuels. On pourrait s'imaginer qu'elle a un magnifique bâtiment, que le dimanche, la meilleure des louanges s'y trouve. Il y a les meilleurs des musiciens qui sont là. Il y a des prédicateurs de renom chaque dimanche qui se suivent l'un après l'autre. Il y en a qui viennent de très très loin d'ailleurs. On les fait venir exprès de l'autre bout du monde parce que l'église est tellement connue que les prédicateurs y viennent avec joie. Et c'est une église qui ne manque jamais de finances. Comme preuve d'ailleurs, ils viennent de, on pourrait s'imaginer, agrandir leur lieu de culte, ou peut-être même décemer. Ils ont créé une église dans une autre région. Et puis même ils sentent que Dieu leur appelle à aller en faire une autre dans un autre pays, même décemer, de commencer une œuvre missionnaire, tellement que l'église est bénie. On y voit souvent des miracles s'y manifester. Et chaque dimanche, il y a un cortège de grandes prophéties qui annoncent des choses merveilleuses. Une fois de plus, je ne suis pas contre les prophéties en disant cela, je pense que vous m'avez compris. Mais pour dire qu'il y a quelque chose de très séduisant qui se déroule dimanche après dimanche dans cette communauté. Il y a de nombreuses conversions avec des baptêmes qui suivent. Et le nombre de membres de l'Église ne fait que croître. Il est dit, c'est une Église riche. Ce n'est pas une Église pauvre, minable, et puis qui est en train de pleurer sur elle-même. C'est une Église riche. Et il faut plusieurs ministères à plein temps pour faire tourner la maison. Ils soutiennent d'ailleurs aussi un grand nombre de missionnaires et d'œuvres humanitaires. C'est une Église riche. Et de plus, les ministères de l'Église, donc leurs propres ministères, sont souvent appelés à voyager afin d'être une grande source d'inspiration pour de nombreuses communautés de par le monde. Et au final, c'est une Église qui se trouve toujours dans la dernière vague de réveil, ou ce qui semble être une vague de réveil, et de bénédiction. Alors comment ne pas être séduit par une telle Église, et même aveuglé? Et c'est bien là qu'il faut le témoin véritable et fidèle pour discerner que dans cette église qui, aux apparences merveilleuses, il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui ne va pas du tout. C'est que Jésus s'y trouve à l'extérieur. Je pense que vous avez déjà entendu une prédication là-dessus. Jésus, dans cette église, il frappe à la porte. Pourquoi? Parce qu'il n'y est pas invité. Il est dehors de cette église. Je frappe. Je frappe, hein, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cette église est bien aveugle parce qu'il est dit qu'elle doit acheter du Seigneur du collyre pour oindre tes yeux afin que tu voies. Cette église semble donc remplie par le feu du Saint-Esprit, alors qu'en réalité les gens qui la composent sont des tièdes. Mais alors comment discerner des chrétiens tièdes, hein? Parce que je vous avais dit, le titre du message de ce matin, c'est quoi un chrétien tiède? Et si nous avons besoin peut-être de le discerner pour nos vies, ou peut-être aussi pour la vie de nos frères et de nos sœurs qui peuvent nous entourer, c'est afin de pouvoir se repentir et afin de pouvoir être à nouveau bouillant pour le Seigneur. Amen. Ce n'est pas pour rester sous un jugement puis dire, voilà, je suis un chrétien tiède, j'ai loupé, j'en reste là, tant pis pour moi, pauvre pécheur que je suis. Hein? Non, le feu du Saint-Esprit, il est là, il est disponible pour chacun d'entre nous pour transformer encore nos vies, pour nous libérer et afin que nous puissions marcher à la gloire de notre Père céleste. Donc, un chrétien tiède, on peut s'imaginer, se sentira très bien dans ce genre d'église. Ah, j'ai enfin trouvé mon église. Cool, merci Seigneur. Une top louange, des prédicateurs toujours top, positifs, des miracles extraordinairement top, un bâtiment top, un accueil top. Hein? Tout est top dans cette église et un chrétien tiède s'y trouvera comme un poisson dans l'eau. D'autres seront devenus tièdes à force de côtoyer une telle église. Il y a un danger, hein? Il y a des églises qui peuvent aujourd'hui être tièdes. Et toi, tu y arrives bouillant, et au bout d'un moment, tu y ressors tiède. Et peut-être c'est mieux d'y sortir d'ailleurs, et de te trouver une autre communauté. Hein? Je crois qu'il est important de vivre la communion fraternelle. Il est important qu'en tant que chrétien, nous ayons une assemblée dans laquelle on s'y trouve. Parce que comme un membre... Vous avez déjà vu un membre qui tombe du corps, combien de temps il peut survivre, hein? Il y a peut-être quelqu'un dans le médical là qui pourra nous dire. Mais une main, vous avez combien d'heures pour aller la faire recoudre? Je ne sais plus, c'est 12 heures, je crois. 6 heures, hein? C'est 6 heures. Hein? Vous avez 6 heures pour faire recoudre la main, après voilà. Et c'est la même chose pour nous. Nous sommes membres du corps du Christ. Et si un chrétien passe trop de temps en dehors de la communion fraternelle, en dehors de l'Église, il est aussi en danger. La vie du Seigneur ne peut pas vraiment pleinement se manifester en lui. Alors, bien sûr, je ne dis pas ici que c'est le salut au travers de l'Église, mais le Seigneur désire pouvoir nous implanter dans une communauté afin que nous puissions vivre la soumission mutuelle. Afin que nous puissions vivre, si Dieu doit nous reprendre et que nous sommes tout seuls, comment va-t-il nous reprendre? Va-t-il devoir envoyer un âne comme un serviteur de Dieu, hein, de l'Ancien Testament, pour qu'il nous parle? Non, le Seigneur, il utilise aussi des fois les frères et les sœurs qui nous entourent. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une église. Le chrétien tiède se croit riche. Il se croit béni de Dieu. Et le Seigneur, lui, le chrétien tiède, il le décrit comment? Et nous pouvons le voir au verset 17, la deuxième partie du verset 17. C'est un chrétien malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors voilà un descriptif qu'on va regarder un peu plus en détail de ce qu'est un chrétien tiède. C'est quelqu'un de pauvre. Pourquoi? Pas pauvre sur le plan économique, mais pauvre sur le plan spirituel. Il se croit richement béni de Dieu, comme je l'ai dit, mais en réalité, c'est un homme vide de la substance divine. Il se croit rempli du Saint-Esprit, alors qu'en vrai, c'est un esprit religieux, c'est-à-dire un démon qui domine et qui conduit son existence. Quelle pauvreté spirituelle! Il se croit connecté à la dernière vague de bénédictions spirituelles en vogue. Mais en réalité, il s'est fait séduire par le diable, qui le berce d'illusions en le conduisant dans une forme de christianisme tronqué, charnel, flattant l'ego, hyper axé sur l'émotionnel. Ce genre de pauvreté spirituelle amène le croyant tiède à mettre de côté la théologie de la croix, c'est-à-dire d'une mort à soi-même, afin que Christ puisse vivre en lui. Il va mettre de côté le renoncement, l'acceptation de la souffrance et les persécutions. Il va mettre de côté la maladie parce qu'avec sa super foi spirituelle, il croit que rien ne peut l'atteindre et que si quelque chose venait à l'atteindre, Dieu le guérirait de toute façon miraculeuse. Moi j'ai connu quelqu'un, par exemple, qui a refusé un traitement du cancer. Et c'était quelqu'un qui allait dans une église un peu, comme je les appelle, hyper charismatique. Et cette personne avait reçu de Dieu, soi-disant de Dieu, qu'elle allait être guérie. Elle a refusé le traitement. Et quand elle a vu que la guérison ne venait pas et qu'elle a commencé le traitement, en fait, c'était trop tard. Et aujourd'hui, elle est décédée. Alors, qui est ce Dieu qui lui a parlé, lui disant qu'elle allait être guérie de son cancer? Est-ce que c'était Dieu ou un démon? Je vous laisse y penser. Et une fois encore, je le répète, je ne suis pas contre les dons spirituels. Aspirer aux dons spirituels, nous dit l'apôtre Paul. Mais il nous a aussi dit de discerner. Et que si on s'est trompé, ma foi, ça arrive à tous les chrétiens de se tromper. Et simplement, si on se trompe, de se repentir et de laisser tomber peut-être ce qui n'est qu'une prophétie de séduction venant de l'ennemi. Il est pauvre également sur le plan de la réflexion, sur le plan intellectuel. Pourquoi? Parce que se croyant richement béni par l'onction de Dieu, pourquoi devrait-il se remettre en question? Sa profondeur n'évoluera pas vers plus de profondeur, sa pensée n'évoluera pas vers plus de profondeur spirituelle. Car il pense que sa façon de croire est la bonne, puisqu'il est si béni par Dieu, par cette toute dernière vague de l'esprit. Alors qu'en réalité, cette vague de l'esprit est peut-être une vague de séduction venant de l'ennemi. S'il passe par un divorce, il ne se remettra pas en question, puisque, soi-disant, le Saint-Esprit remplit tellement sa vie. S'il passe par un accident ou la maladie, la perte d'un emploi ou que sais-je, pour lui, c'est jamais Dieu qui le reprend, c'est jamais Dieu qui le châtie, et donc il ne se repentira pas. Voici ce que nous dit le verset 19. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. » Un chrétien tiède, c'est quelqu'un qui n'acceptera pas dans sa théologie le châtiment de Dieu. Si vous allez venir sur ce thème-là, mais tu vois, mon frère, ma sœur, là, ce que tu as vécu ces derniers temps, je ne veux pas te juger, ça, c'est le Seigneur qui doit mettre la lumière. Alors, parce que c'est vrai que quand quelque chose de mauvais nous arrive, ça peut être une attaque de l'ennemi, ça c'est sûr. Alors, c'est sûr à 100%, ça peut être le cas. Mais peut-être une fois que quelque chose de mauvais va arriver dans nos vies, parce que c'est Dieu qui désire nous reprendre et qui nous châtie. Parce que Dieu châtie les enfants qu'il aime. Donc si tu es châtié, c'est par amour du Seigneur. C'est parce que Dieu désire que tu puisses remarcher sur le chemin du salut. Amen. 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 Dieu châtie. C'est la Bible qui nous l'enseigne. Et c'est par amour que Dieu châtie et que parfois, tout d'un coup, on se trouve dans une situation un peu inattendue. Puis on se dit, ok, c'est vrai, là, Seigneur, je suis allé trop loin, je ne t'ai pas écouté, j'ai marché un peu selon mes pensées, et puis je te demande pardon, je me repens, je reviens, et je te demande de ce que dans mon cœur, ça puisse fonctionner autrement et à ta gloire. Alors, dans la description que nous avons du chrétien tiède, il est pauvre, il est également non seulement pauvre, aveugle encore, aveugle, parce qu'il pense pouvoir être un guide, alors qu'en réalité, il ne sait pas sur quel chemin il est en train de marcher. Et en plus, son chemin est celui de la condamnation éternelle s'il demeure dans sa tiédeur. Il est aveugle, car comme nous l'avons vu précédemment, il se croit riche, alors qu'en réalité, il est pauvre. Il se croit béni, alors qu'en réalité, il est sous le contrôle d'un esprit de séduction. Il se croit sauvé, alors que peut-être, suivant ce qu'il vit, il demeure sous la condamnation éternelle. Il est aveugle de sa situation spirituelle, vu que tout semble lui réussir. Hein? C'est une église qui est riche, donc il semble richement béni de la part de Dieu. Il est dit encore qu'il est nu. Nu pourquoi ? Parce qu'il n'est pas, il n'est plus sous l'alliance du Christ. Il est nu parce qu'il ne respecte plus les engagements qu'un chrétien doit suivre dans le cadre de la nouvelle alliance. Paul a dit, Christ est la fin de la loi, mais Paul a aussi dit, hein, Christ est ma loi. Hein? Donc, je ne suis plus justifié par la loi, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus de commandements à suivre et que je peux marcher selon mes pensées. Non, la loi du Seigneur, elle demeure. Alors, au niveau des rituels, la loi a changé, parce qu'on ne va pas aller sacrifier une brebis pour demander pardon au Seigneur. Hein? Au niveau sacrifice, on sait que c'est Jésus-Christ. Mais ensuite, tout ce qui est au niveau de la sanctification, c'est clair que c'est par l'œuvre de la croix que nous l'avons. Mais les commandements pour la marche et puis pour suivre le Seigneur, eh ben, ils demeurent. Hein? D'aimer ton prochain, aimer même ton ennemi, ça c'est des lois, ça demeure. Pardonner, c'est une loi, quelque part, mais ça demeure. On n'est pas affranchi de cette loi-là, en tant que chrétien, de pardonner. Et bien sûr que c'est une loi qu'on peut remplir uniquement au travers du sacrifice de Jésus-Christ. On ne va pas se justifier. Ah, tu vois, Jésus, hein, j'ai pardonné celui-ci, hein, franchement, je suis un top chrétien, là. Hein. Non, c'est parce que nous avons été pardonnés que nous pouvons à notre tour pardonner. Il est nu aussi parce qu'il ne s'intéresse pas de la marche de l'Église et de quelle manière il pourrait y contribuer en s'impliquant dans une ou plusieurs tâches. Il vient plutôt en consommateur, dans un esprit critique, à soulever ce qui ne semble pas correspondre à ses attentes. Et il a un esprit aussi critique envers les frères et les sœurs de sa communauté. Il est nu en homme quelque part parce que c'est un chrétien charnel. Il arrive rarement à l'heure aux rencontres de l'Église et ne participe que de temps à autre à un culte et les réunions de semaine. Il n'y vient pas car pas suffisamment importante à ses yeux. La dîme, pour lui, c'est bien sûr quelque chose d'Ancien Testament. D'ailleurs, quand il est jeune, il n'a pas les finances pour soutenir l'Église. Une fois plus âgé et impliqué dans la vie active, il a trop de responsabilités et trop de priorités, autres que l'Église, pour se soucier des finances de son assemblée. Et une fois âgé, il estime que c'est au plus jeune maintenant de soutenir l'œuvre et que lui a déjà fait sa part. Alors la dîme, je ne vais pas m'arrêter longuement là-dessus, c'est un défi, mais peut-être qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui peut nous attiédir aussi, nos finances. Hein? Progressivement, on lâche du mou. Alors des fois, on est peut-être dans des situations financières où on doit penser en priorité à nos besoins. Ça, c'est clair, ça peut arriver. Mais des fois, on doit bien gérer aussi ce que le Seigneur nous a donné. Et bien gérer, c'est penser aussi à l'apport qu'on doit donner au Seigneur. Et moi, on pourrait débattre mais des heures et des heures, et théologiquement dans tous les sens, pour dire est-ce que la dîme c'est l'Ancien Testament, est-ce que c'est le Nouveau Testament, hein? On pourrait en parler et en parler. Je n'ai pas forcément la réponse à te donner. Moi j'ai une conviction au fond de mon cœur, j'ai une conviction. Je ne vais pas débattre avec toi théologiquement des heures et des heures, je n'aurai pas les arguments, mais j'ai une conviction au fond de mon cœur que la dîme, c'est un principe qui reste sous la Nouvelle Alliance. Alors que peut-être le Seigneur te donne aussi cette conviction qui parle à ton cœur. Parce que si tu vas écouter des arguments théologiques dans cette direction ou des arguments théologiques dans l'autre direction, c'est bien, on doit réfléchir. Mais à un moment donné, on doit demander la pensée du Seigneur, hein, pour ne pas rester attaché à une tradition qui est humaine. Parce que peut-être, de ne plus donner sa dîme, ce n'est qu'une tradition humaine qui a remplacé la parole du Seigneur. Que Dieu nous parle. Il est nu, car sa consécration à Dieu peut avoir de graves manquements. La Bible nous dit de fuir l'immoralité sexuelle. Face à ce genre de danger, nous devons fuir comme un animal de proie doit fuir devant son prédateur. Et c'est là notre seule chance de survie. Cette semaine, un matin, je suis allé me promener, faire ma petite marche, tac, tac, tac. Puis c'était tôt le matin. Et il y a des chevreuils qui sont passés devant moi. Et puis, il va commencer la période de chasse. Ben, on a l'impression déjà qu'ils se préparent à ça, hein, parce qu'ils ont passé un courant à vitesse turbo plus. Hein. c'était assez impressionnant. Et ça me parlait. Ça me parlait parce que je me dis, oui, ben, en tant que chrétien, nous aussi, devant l'immoralité sexuelle, on doit fuir. Et si j'en parle, c'est parce que c'est la Bible qui en parle. Hein. Fuyez l'impudicité. Et Jésus, un jour, va dire aux adultères, dehors. Un jour, Jésus va dire à ceux qui sont impudiques, dehors. On doit pouvoir parler de ces choses dans l'Église. Et moi, je ne les aborde pas pour juger un frère ou pour juger une sœur, mais simplement afin qu'elle puisse vivre consacrée pour son Dieu. Et le chrétien tiède va vivre dans le compromis par rapport à ça, parce que quelque part il se dit, mais c'est au nom de l'amour que je vis cela. Et au lieu de mourir à lui dans ce domaine, il préfère suivre les penchants de son cœur. Sa sexualité prend plus de place dans son cœur que son Dieu. Et ce que le Seigneur désire pour nous, c'est non l'impudicité, mais la sanctification. Pourquoi ? Parce que nos corps ne nous appartiennent plus. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tel est le désir du Seigneur. Et toute relation sexuelle en dehors du mariage est de l'impudicité, si on regarde les textes bibliques, hein, l'enseignement est clair. Et si un chrétien demeure dans l'immoralité sexuelle, alors il est aussi dit hein, qu'il n'héritera pas du royaume des cieux. Et aujourd'hui, on est dans une société, je pense que vous l'aurez remarqué, hein, je ne vous apprends pas quelque chose de nouveau, où il y a énormément de stimuli sexuels. Hein. Je suis un peu, voilà, j'ose aborder les choses ce matin. C'est vrai, vous pouvez regarder comment parfois les gens s'habillent, comment la mode met les choses en avant, comment les clips sont passés aussi dans la musique, hein. Si vous analysez certains clips, hein, c'est grave. Là, j'ai entendu, par exemple, un clip de Britney Spears. C'est vraiment de l'immoralité, mais échelle XXL. Hein. Elle tourne un clip où elle est dans un couloir d'école. Elle est habillée comme une jeune fille. Et puis, elle chante des choses. Mais il y a un passage, à un moment donné, si vous passez la musique à l'envers, dans l'autre sens, elle dit « Fais-moi l'amour parce que je ne suis pas trop jeune pour ça ». Donc, c'est carrément, c'est de la promotion de la pédophilie. C'est véridique, hein, je ne suis pas en train de vous amener un élément comme ça hors norme pour impressionner. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société, et je pense que vous l'avez remarqué, où l'immoralité règne. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut fonctionner différemment. Et pourquoi on doit faire mourir quelque part ces pulsions qui sont malsaines? Simplement parce que ça peut prendre trop d'importance dans notre existence. Et puis, au bout d'un moment, ben, on va être focalisé là-dessus, au lieu d'être focalisé pour le Seigneur et pour les choses qu'on peut entreprendre, même dans notre vie courante. Quelqu'un qui est trop tenu par la sexualité, c'est quelqu'un qui va finir par tomber dans la dépression, parce qu'elle n'aura plus d'énergie pour les autres choses de son existence. On était créé comme ça, hein. On était créé pour des œuvres. Et si on se focalise trop dans quelque chose, ben ça va nous fatiguer, ça va nous lasser, et ça aura des conséquences sur notre vie de tous les jours, parce que les choses que le Seigneur nous appellerait à entreprendre dans notre vie courante, ben on va les laisser de côté parce qu'on met tellement d'énergie sur une réalisation de l'ordre sexuel. Et face à cela, on doit apprendre à ne pas réagir à tous ces stimuli qui ne manquent pas dans notre société et demander l'aide du Seigneur, parce que si Dieu vient à notre secours, si Dieu se lève dans notre situation, il va nous libérer. Amen. Amen. Il va nous aider à changer de comportement et on va pouvoir vivre différemment et retrouver une réflexion saine aussi. Parce que pour finir, ça touche même la réflexion. Parce que pour finir, tellement les pensées tournent là-dedans, à longueur de journée, à longueur de mois, ça tourne. Et puis, on n'est plus connecté au Seigneur, on n'est plus connecté à la réalité du monde, à ce qu'on doit entreprendre, à nos responsabilités aussi, tellement qu'on est pris dans ce genre de pensée. Alors j'arrive à la fin de ce message, et c'est qu'une approche incomplète de ce que peut être un chrétien tiède, mais ça nous donne déjà quelques pistes de réflexion. Et c'est vrai que ce n'est pas un tableau très réjouissant, je le reconnais, mais Jésus nous enseigne dans la Bible, on aurait pu prendre d'autres textes, à plusieurs reprises, que la tiédeur guette le croyant. Toutes ces observations ne sont là pas pour que nous développions un sentiment de culpabilité, mais que, si besoin, nous passions par la repentance. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Et vous savez, parfois dans l'Église aujourd'hui, je dis l'Église en général, on a des critères face à la sanctification qui sont devenus un peu bas. On n'a plus les standards divins. Et nous ne devons pas devenir légalistes, en mettant les chrétiens sous une chape de plomb. Mais que le Seigneur nous parle personnellement et que nous soyons peut-être prêts à ce qu'il nous reprenne, afin qu'on puisse marcher en vainqueur. Il y a une promesse ici au verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Extraordinaire. Un jour, on ne va pas pouvoir s'asseoir avec Jésus sur le trône. C'est quand même pas rien. Vous vous rendez compte, cette place privilégiée qui nous est attendue, à nous qui sommes appelés à vaincre, à être des chrétiens qui marchent dans la victoire et qui s'attendent au soutien et à la délivrance de Dieu. Je vais prier encore. Seigneur, nous savons que le chrétien parfait n'existe pas dans ce bas monde, mais nous ne voulons pas nous laisser attiédir par ce monde, par les convoitises de ce monde, par des principes, Seigneur, qui ne sont pas bibliques et qui ne te glorifient pas. Seigneur, nous te demandons de venir parler à nos cœurs, afin que nous puissions être des servantes et des serviteurs fidèles dans ta maison, pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, nous acceptons que tu nous reprennes si besoin et nous acceptons le châtiment si besoin, afin que nous puissions changer de comportement, afin que tu puisses transformer encore nos vies. C'est toi l'auteur du salut, Seigneur, dans nos existences, et c'est toi l'auteur aussi de notre liberté. Et nous ne voulons pas nous mettre sous un joug étranger, nous ne voulons pas porter, Seigneur, un fardeau qui n'est pas le tien. Mais nous voulons nous réjouir de ton salut et nous voulons parcourir sur cette terre la vocation dans laquelle tu nous appelles. Nous voulons demeurer, Seigneur, dans ta parole, non sur nos propres efforts, non sur nos propres mérites, mais dans une confiance, Seigneur, et que tu puisses venir ranimer cette confiance peut-être, si on l'a un peu perdue, si elle s'est effilochée. Ce matin, nous croyons que tu es Dieu. Nous croyons que tu es le Seigneur. Nous croyons que tu es le roi de gloire. Nous croyons que tu sièges à la droite du Père. Nous croyons que tu as autorité sur tout esprit des ténèbres. Nous croyons qu'il n'y a point ici d'esprit religieux qui n'a pas été dépouillé à la croix de Golgotha. Nous croyons, Seigneur Jésus, que tu es Dieu, que toi, comme nous avons entendu, habitais corporellement toute la plénitude de la divinité. Et nous croyons que nous faisons partie de ce corps-là, Seigneur. Nous croyons que tu nous as rachetés. Nous croyons que ce matin, tu ne nous rejettes pas, mais que dans ton amour, tu nous appelles à demeurer fermes dans ton nom jusqu'à ton retour. Amen.